Bonjour, l'objectif de cette vidéo est de présenter les éléments de base de la programmation web et en particulier de montrer comment on va construire la programmation web sur les sockets présentés lors de la vidéo précédente. Je commencerai par présenter quelques briques de base du web avant de parler du langage HTML et de présenter brièvement la librairie WebPI qui est probablement la manière la plus simple en Python d'écrire un petit site web. Comme évoqué dans la vidéo précédente, au-dessus des sockets, pour faire quelque chose d'intéressant, on a besoin de protocoles et de formats de données. Dans le cas du web, le protocole va être HTTP pour Hypertext Transfer Protocol. Et pour les formats de données, on va avoir un certain nombre de langages, les plus courants étant HTML, CSS et JavaScript, avec une petite distinction à faire d'entrée de jeu. JavaScript est un vrai langage de programmation, comme Python ou C++, qui simplement s'exécute dans votre navigateur. HTML et CSS ne sont pas vraiment des langages de programmation, ce sont des langages de description de données. HTML vous permettra d'écrire le contenu d'une page, et CSS vous permettra de définir le style de cette page. Une autre brique de base dont on va avoir besoin en programmation web, c'est ce qu'on appelle les URL pour Uniform Resource Locator, que vous avez déjà très vraisemblablement rencontré, qui prennent essentiellement cette forme-ci. Si je décompose les URL sur la première ligne par rapport à ce qu'on a déjà vu, je vais dire que nom.fr, c'est le nom symbolique de la machine que je cherche à contacter. HTTP, c'est le protocole que je vais utiliser pour communiquer avec cette machine. Et www, ce qu'on appelle le sous-domaine. Page.html, ça va être le chemin vers le fichier auquel je souhaite accéder. Le protocole HTTP, en général, utilise le port 80 et est un protocole essentiellement textuel. Ce qui veut dire, en pratique, la chose suivante. Si vous souhaitez échanger en HTTP avec une machine distante pour consulter un site web, vous allez ouvrir une socket sur cette machine distante en utilisant le port 80. Et vous allez envoyer des instructions textuelles pour indiquer ce que vous souhaitez faire. Vous avez ici quelques exemples d'instructions. Get URL, ça vous permet de demander le contenu de la page. Put, ça vous permet d'envoyer une page. Et delete, ça vous permet d'effacer une page. Évidemment, quand vous utilisez votre navigateur web, la plupart du temps, pour des raisons d'accès, ce que vous allez faire, c'est consulter des pages. Donc, dans ce cas-là, vous verrez « get » avec le nom de la page que vous souhaitez consulter. Et ce que vous recevrez en retour, c'est un code d'erreur. Incidemment, vous avez déjà rencontré des codes d'erreur. Par exemple, 404, qu'à peu près tout internaute a déjà rencontré dans sa vie, c'est le code d'erreur pour « not found », qui veut dire que la page que vous demandez n'existe pas. Et en marge de ce code d'erreur, si en réalité s'il n'y a pas eu d'erreur, vous recevrez le contenu de votre page. Le contenu de cette page sera au format HTML. C'est évidemment un autre acronyme pour Hypertext Markup Language. C'est là aussi un format textuel qui va vous servir à donner le contenu et la structure de la page. Quand je dis contenu, pensez le texte des différents paragraphes. Et structure, ça va être par exemple la manière dont les paragraphes se répartissent en sections et sous-sections, le fait qu'ici ou là il y ait un tableau, ce genre d'informations. Et ce qui est important de noter, c'est que c'est un format textuel. Donc le serveur va envoyer du texte à votre navigateur au format HTML et votre navigateur va assurer ce qu'on appelle le rendu, c'est-à-dire qu'il va interpréter cette description textuelle de la page pour en produire une version graphique que vous allez consulter. Voilà à quoi ça ressemble en pratique, HTML. Vous avez ce qu'on appelle un système de tags. Si je regarde les tags à l'extérieur, c'est ici HTML. Donc ça va contenir l'ensemble de ma page. Et ce que vous voyez, c'est que la forme avec deux chevrons ici en haut me sert à ouvrir un tag. Et la forme semblable, mais avec un slash, sert à fermer le tag. Donc ce que vous voyez se dessiner, c'est un emboîtement de tag qui abstraitement décrit un arbre. Et ce qui se passe, c'est qu'à la racine, j'ai mon nœud HTML qui, encore une fois, représente toute ma page. Et j'ai ici deux sous-nœuds, un nœud head pour l'entête et un nœud body pour le corps du texte. Dans l'entête, j'ai un sous-nœud title pour définir le titre de ma page. Et ici, dans le corps du texte, j'ai simplement deux lignes de texte, BR étant le retour à la ligne. Évidemment, Internet ou les sites web ne seraient pas intéressants si tout ce qu'ils pouvaient faire serait de toujours afficher des données statiques, toujours afficher les mêmes données. Donc quelque chose qui va être très utile, c'est la notion de formulaire en HTML qui va prendre cette forme générale. Vous aurez un tag forme où vous indiquerez l'URL de destination, c'est-à-dire l'URL à consulter une fois que le formulaire aura été soumis. Et à l'intérieur du formulaire, outre les éléments habituels, le texte, image, tableau, que sais-je, vous aurez des tags spéciaux, input, qui permettent à l'utilisateur d'entrer des informations. Et vous aurez toujours à peu près la même forme, vous donnerez le type de votre input, et vous associerez nom et valeur. Le type de l'input, on va voir sur le transparent précédent, donc c'est le type d'entrée. Pensez par exemple à un champ de texte sur une ligne, un champ de texte multiligne, une case à cocher, ce genre de choses. Et par exemple, si je veux en HTML décrire ce formulaire qui demande à l'utilisateur quels équipements il possède, donc vous voyez que si j'ai ici trois cases à cocher, ici j'ai deux cases de choix et un bouton pour soumettre mon formulaire. Ça ressemblait à ça. Ce qui est intéressant, c'est le tag form. Et vous voyez qu'à l'intérieur de ce tag form, je dis quelle est la page destination quand le formulaire sera soumis. J'ai une checkbox pour le téléphone. Je dis que sa valeur sera 1 si la checkbox est sélectionnée. J'ai des choses semblables pour mes radio box. Radio box, c'est quand vous avez le choix de un parmi plusieurs. Et à la fin de mon formulaire, vous voyez que j'ai un type spécial submit qui correspond au bouton pour soumettre le formulaire. Ce qui va se passer lorsque l'utilisateur va soumettre son formulaire, donc après avoir rempli, par exemple, comme ici, en choisissant téléphone portable, ordinateur et connexion Internet, c'est que le navigateur va engendrer une requête vers cette URL-ci. On va envoyer un GET avec cette URL-ci. Et ce que vous voyez, c'est que votre URL, elle commence, comme on a déjà vu, avec quelque chose qui est semblable à un nom de fichier. Mais derrière, vous avez ici, je l'ai un peu masqué, mais un point d'interrogation. Et vous avez des paramètres qui représentent les choix que l'utilisateur a fait dans le formulaire. Vous avez caractère et pour séparer les différents éléments des données, et vous avez ce qui correspond à la sélection du téléphone, de l'ordinateur, et le fait d'avoir une connexion Internet. Vous voyez, c'est une manière, il y en a d'autres, mais c'est une manière d'encoder les informations d'un formulaire de telle sorte que vous allez obtenir en retour, en toute hypothèse, une réponse dynamique du serveur. Mais toujours en utilisant le même principe d'envoyer sur votre socket, sur le port 80, une requête GET suivie du nom de la page que vous souhaitez consulter. Simplement, ce nom est enrichi d'un certain nombre de paramètres qui vont contrôler le comportement exact du serveur. Regardons à quoi cela peut ressembler en Python. J'ai choisi ici la librairie web.py à des fins d'illustration, parce que c'est une librairie, vous allez le voir, extrêmement simple. C'est bien si vous voulez vous faire la main ou comprendre comment fonctionne un petit site web. Si vous voulez faire quelque chose d'un peu plus ambitieux, vous avez des librairies sensiblement plus fournies, comme Flask, par exemple, ou encore plus fournies, Django, qui sont utilisées pour les sites professionnels. Web.pi, c'est vraiment utilisé ici qu'à des fins d'illustration, parce qu'encore une fois, c'est une librairie très très simple d'utilisation. Quand vous utilisez web.pi, vous allez importer le module qui s'appelle web. Vous allez, à la fin, créer votre application en appelant web.application avant de lancer run. Run, ça va effectivement lancer un site web sur votre machine que vous pouvez consulter depuis votre navigateur. Et ce que vous voyez ici, c'est que ce que vous passez en particulier à la création d'une application, c'est une variable que j'ai définie juste au-dessus, URL, qui me définit un mapping entre des URL et des noms de classe. Alors, il se trouve que c'est représenté ici sous la forme de liste, mais moralement, voyez-le comme un mapping, voyez-le comme un dictionnaire. Et par exemple, si je veux définir une page index.html sur mon site web, je peux procéder de la manière suivante. Donc, je donne le nom de la page et je dis que cette page, elle va être traitée par ma classe qui s'appelle index. Et après ça, tout ce que j'ai à faire, c'est, sans grande surprise, de définir une classe qui s'appelle effectivement index. Et ce que cette classe qui correspond à ma page va contenir, c'est une méthode get, qui correspond, on l'a vu, à ce qui est envoyé par la socket textuellement. Et cette méthode get, son objet, c'est de créer le contenu HTML de la page et de le renvoyer sous forme textuelle. Et ce que fera la librairie pour vous, c'est qu'elle va mettre en place le serveur, attendre que quelqu'un se connecte sur le bon port, et lorsque le serveur recevra un get de index.html, saura qu'il doit appeler la méthode get de cette classe-ci, l'exécutera, prendra le texte qui est généré et l'enverra au client. De telle sorte que, en toute hypothèse, le navigateur pourra afficher ce qui a été construit ici. Ce que vous constatez très rapidement lorsque vous commencez à programmer un site web, c'est que, comme je l'ai dit en parlant des formulaires, vous avez besoin de dynamique, c'est-à-dire que l'utilisateur doit pouvoir contrôler en partie les réponses qui lui sont données. Mais ce que vous allez constater, c'est que ces paramètres qui sont envoyés par l'utilisateur ont un impact souvent faible, voire marginal, sur la structure globale de la page. Et donc, plutôt que d'avoir à répéter la construction de la page en Python, c'est-à-dire en construisant, encore une fois, du texte qui correspond au code HTML avec les tags, ce qui va être très souvent utilisé, c'est ce qu'on appelle des templates, qui vont consister essentiellement à avoir du texte HTML au sein duquel vous pouvez ajouter des éléments dynamiques. Donc, la grande idée du template, ici c'est un exemple web.pi, vous définissez votre template en disant qu'il va prendre deux paramètres, une variable qui s'appelle nom, une variable qui s'appelle liste, et ensuite vous donnez du code HTML, donc encore une fois du texte simple, et simplement dans ce code vous aurez des substitutions effectuées, name sera remplacé par la valeur qui sera passée ici, et pour liste vous allez avoir une boucle for qui va itérer et afficher tous les éléments. Vous voyez que l'avantage, c'est que plutôt que de construire cette chaîne de caractères avec le bon name et les bons éléments en Python, d'accord, par concaténation successive de chaînes de caractères, vous écrivez votre fichier en HTML simple, et simplement, vous allez être capable d'injecter des valeurs. C'est ça l'idée centrale d'un moteur de template. Et la manière dont vous allez l'utiliser, vous allez devoir déclarer où vous allez stocker vos templates, c'est-à-dire vos fichiers dont le contenu est tel que sur le transparent précédent. Et ensuite, ce que vous aurez à faire dans votre méthode get, c'est d'appeler le template avec les valeurs des paramètres. Et ce qui est sur le transparent précédent se comportera moralement comme une fonction qui, comme je l'ai dit, substituera les valeurs passées ici dans le texte HTML. Donc ça est suffisant pour programmer un petit site web. Pour terminer cette vidéo, un mot sur Web 1.0 et Web 2.0. Je dis parfois Web classique et Web moderne. Le Web classique ou le Web 1.0, c'est ce que je viens de vous présenter. Et ce qui se passe, c'est que depuis votre navigateur, vous allez envoyer une requête pour une page au serveur qui va vous répondre avec le contenu de la page. Et ensuite, vous allez cliquer sur un lien sur cette page, soumettre un formulaire de cette page. Et ce qui va se passer, c'est que votre navigateur, en conséquence, va émettre une nouvelle requête vers le serveur qui va vous renvoyer une nouvelle page complète. Ce qui est différent dans le Web 2.0 ou dans le Web moderne, c'est que votre interaction avec le serveur commence de la même manière. Vous demandez une page, vous recevez l'ensemble de la page. Mais ensuite, au lieu de demander une nouvelle page en entier, vous allez effectuer une requête, dite AJAX, pour demander au serveur quels sont les éléments qui sont modifiés par l'interaction, tels que le clic sur un bouton, le scroll ou que sais-je. Et ce que le serveur va envoyer, ce n'est plus une page complète, mais c'est simplement le jeu minimum de données pour que le navigateur sache comment modifier la page du côté du client. Vous avez deux aspects à ça. Vous avez un aspect qui est un aspect d'efficacité, puisque vous voyez que vous ne retransmettez pas une page en entier, vous retransmettez uniquement les fragments qui doivent être modifiés. Donc vous êtes un peu plus efficace de ce point de vue-là. Mais vous voyez que ça change aussi les interactions. Vous restez sur la même page et cette page se met à jour. Vous voyez que pour un certain nombre d'usages, c'est plus ergonomique. Et ça m'amène d'ailleurs à faire remarquer que ce Web 2.0, c'est aussi ce qu'on appelle le web social, le web des réseaux sociaux. Ça n'est pas un hasard. Vous voyez en parallèle la technique et l'usage. Pensez simplement sur un site comme Twitter ou Facebook à un fil d'actualité. Si vous êtes dans ce fonctionnement 1.0, ça veut dire changer de page, recharger la page en entier à chaque fois qu'un nouveau message arrive d'une certaine manière. Vous voyez bien qu'en termes d'usage, c'est extrêmement disruptif. Vous commencez à scroller et la page se mettrait à jour complètement parce qu'un nouveau message a été reçu. Donc ce serait essentiellement inutilisable. Donc ces sites vont fonctionner en mode 2.0. Et encore une fois, vous voyez à quel point les usages et la technique sont parallèles.